Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Dans un instant, ça se dispute avec Guillaume Bigot et Philippe Guibert. Juste après, l'essentiel de l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Johan, bonsoir à tous. En Gironde, le soulagement du moins du côté de la Teste de Buch. Après 11 jours à lutter contre les flammes, le feu est enfin fixé. L'incendie a ravagé 7000 hectares de forêt depuis le 12 juillet. On fait un point sur la situation avec Régine Delfour.
C'est enfin la nouvelle que tout le monde attendait. Le feu de la Teste de Buch est enfin fixé, mais il n'est pas totalement éteint et c'est pour cela qu'il reste des zones inaccessibles. Je vous propose d'écouter le lieutenant-colonel Olivier Chavat à ce sujet.
L'intégralité du massif n'est pas accessible et j'insiste parce que là aussi, pendant qu'on va continuer à travailler et on constate qu'il y a des curieux qui essayent de s'approcher du massif et ça c'est vraiment rédhibitoire pour nous, c'est dangereux pour nous empêcher de travailler, c'est dangereux pour eux-mêmes et donc ça j'insiste bien, l'intégralité du massif reste interdite aux accès. De la même façon, la dune du Pilat reste inaccessible pour l'instant et les routes qui ceinturent depuis le rond-point des Miquelots et toute la route des plages restent interdites à toute circulation, fût-elle en vélo, parce qu'on a rencontré des vététistes qui s'aventuraient sur ces pistes et ça franchement c'est à proscrire.
Tous les habitants de la Teste de Buch peuvent regagner leur domicile, mais ce n'est pas le cas pour ceux des communes voisines de l'incendie de Landiras, puisqu'il n'est toujours pas fixé, il est simplement contenu. Les sapeurs-pompiers espèrent pouvoir le fixer dans les jours qui viennent.
Variole du singe, l'OMS déclenche le niveau d'alerte maximal. Une décision prise compte tenu de la flambée des cas majoritaires chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Mais le patron de l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre toute stigmatisation des malades. Au Royaume-Uni, la pagaille au port de Douvres. Les autorités britanniques accusent la France de ruiner les vacances des Anglais. Côté français, le rôle du Brexit est pointé du doigt. Hier, d'importants embouteillages se sont créés par manque de personnel de la police aux frontières. Les vacanciers sont restés coincés pendant des heures avant de pouvoir accéder à ce port, l'un des principaux points d'accès au continent. Et en Formule 1, Charles Leclerc s'offre la pole position du Grand Prix de France. Le monégasque deuxième du championnat devance le leader Max Verstappen sur le circuit Paul Ricard du Castellet dans le Var. La course sera à suivre demain à 15h sur Canal+ et C8. Tout de suite, ça se dispute avec Johan Usaï et ses invités.
Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve à 20h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. D'ici là, donc, vous l'avez dit, ça se dispute en direct sur CNews avec ce soir Guillaume Bigot. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Johan Usaï.
Politologue, et puis j'accueille également Philippe Guibert, enseignant et consultant. On commence tout de suite donc avec le quartier de la Guillotière à Lyon qui a une nouvelle fois été au cœur de l'actualité cette semaine. Trois policiers en civil ont été lynchés à coups de barre de fer. C'était mercredi dernier. En réaction, la sécurité a été renforcée dans le quartier à la demande du ministre de l'Intérieur. Des CRS ont notamment été envoyés en renfort. Elisabeth Borne a promis, je cite, la plus grande fermeté. Écoutez la Première ministre.
Je voudrais tout d'abord apporter tout mon soutien aux policiers qui ont été agressés dans des conditions qui sont extrêmement choquantes, condamner très fermement ces agissements, vous dire que les moyens d'enquête vont être fortement mobilisés et qu'on veut absolument pouvoir sanctionner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Il faut respecter la République et ça passe d'abord par le fait de respecter les policiers. On va naturellement mettre les moyens qu'il faut et si on a besoin de renforcer dans ces quartiers, on le fera. En tout cas, ça ne peut pas rester impuni. Il faut qu'on puisse réagir rapidement. Ça passe évidemment d'abord par des enquêtes et ensuite la justice dira ce qu'il en est. Mais vous aurez compris que vraiment ce n'est pas tolérable de s'en prendre à nos policiers qui sont là pour protéger la population.
Guillaume Bigot, des mots, toujours des mots, ou est-ce qu'il y a une véritable prise de conscience, selon vous, au sein du gouvernement ?
Je sens une pointe d'ironie dans votre question. Et je pense que la réponse est vraiment dans votre question. Le problème dure, c'est enquisté, c'est aggravé, ne cesse de s'aggraver. Mais les mots MOTS face à des mots MAUX existent depuis 30 ans. Donc je pense que ces réactions pavloviennes, préenregistrées, on attaque la République quand on attaque des policiers, on va voir ce qu'on va voir cette fois-ci, c'est la dernière fois, etc. Tout ça, ce sont des réactions préenregistrées, c'est une sorte de magnétophone social et politique. La gauche, la droite et LREM, qui est la Renaissance, si vous voulez, qui est un mélange, un medley, un remix, comme diraient les gens avec leur platine, entre le PS et LR, on est dans l'idéologie dominante, l'idéologie de la classe dirigeante. Cette idéologie, elle est réifiée en système juridique, de sorte que vous avez une glaciation juridique, un système tel que ce sont les immigrés qui font la politique d'immigration, ce sont aussi largement les délinquants, le manque de places de prison, l'idéologie des magistrats, le système de renforcement permanent des droits de la défense qui font la sanction pénale, c'est-à-dire pas de sanction pénale ou très peu de sanction pénale. Donc tout est mis en place par la classe dirigeante pour que le problème ne soit pas traité, et c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire c'est un cas d'école, c'est-à-dire plus la violence explose et plus la classe dirigeante répond de manière molle à cette explosion de la violence. Donc oui, que de mots, oui, bien sûr.
Philippe Guibert, est-ce qu'il y a, comme le dit Guillaume Bigot, une sorte d'impuissance de la classe politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs?
Impuissance volontaire, volontaire et organisée.
On voit en tout cas que les mots prononcés sont, c'est vrai, souvent les mêmes. On assiste souvent aux mêmes réactions. Est-ce que c'est le signe, selon vous, d'une impuissance qu'on masque par ce que vient de décrire Guillaume Bigot, précisément?
Enfin, on ne peut pas demander à la Première ministre de mener l'enquête elle-même. Et donc, elle est de passage à Lyon. Et donc, elle condamne fermement ce qui s'est passé à juste titre. On ne peut pas demander au chef de gouvernement de mener l'enquête. Après, on jugera ses paroles aux actes. Impuissance volontaire organisée, non, je ne crois pas. Impuissance, oui. Et c'est bien un problème. Volontaire organisé, je ne crois pas. Il y a eu une montée des revendications de droits qui est effectivement de liberté individuelle qui a fortement influencé le cours de la justice depuis 30 ans. Ça n'a pas que des inconvénients, même si on peut tout à fait en discuter et le critiquer. Donc,
pour les gangsters, non, ça n'a pas que des inconvénients.
Non, mais si demain vous vous retrouvez dans un tribunal, vous serez peut-être ravi d'avoir quelques-unes de ces garanties.
Bon, comme les honnêtes citoyens, je n'aurais pas trop de problèmes.
Vous savez, même les honnêtes citoyens se sont retrouvés
derrière les tribunaux. Elle a de plus en plus de problèmes aujourd'hui avec les
magistrats. Ouais, ne tomberont pas dans ce poujadisme.
Disons qu'on se comporte bien, on a quand même peu de chances de se retrouver devant un tribunal.
Oui, bien sûr. Il n'y a pas que le pénal, si je peux terminer mon propos. Il n'y a pas que le pénal, il y a aussi d'autres dimensions dans la justice, les tribunaux civils, et donc dans tout ça, aussi, il y a eu des progrès de droit individuel qui peuvent avoir des...
Là, ce n'est pas le problème.
Oui, mais qui peuvent avoir des effets pervers, effectivement, dans le domaine pénal. Alors, là, on est sur un cas d'un quartier où, soyons clairs, on va aller directement où il y a de l'immigration clandestine. Qui dit immigration clandestine dit conditions précaires de vie et difficultés d'intégration, donc dit délinquance avec des trafics qui peuvent se greffer dessus, et qui fait que la police n'est plus tout à fait n'a plus tout à fait son monopole de la violence légitime qui définit l'État. Donc, est-ce que par rapport à cette question-là, parce que la Guyotière, ça fait des mois et des mois qu'on a des faits de violence répétés. On se souvient qu'il y avait eu un supermarché qui avait fermé ses rideaux de crainte de ne pas pouvoir assurer la sécurité. Donc, là où on doit interroger l'impuissance publique, c'est par rapport à un quartier comme celui-là qui est en pleine dérive, à l'évidence. Qu'est-ce qui est mis en œuvre sur la durée, au-delà de telle ou telle enquête, qui est évidemment indispensable? Comment fait-on? C'est là où je rejoins Guillaume Bigot, c'est que depuis 30 ou 40 ans, tous les gouvernements qui sont succédés, de droite comme de gauche, ont dit qu'ils allaient contrôler l'immigration, et notamment l'immigration clandestine, et que la réalité est parfois assez éloignée de ce discours. Donc la question est de savoir comment on fait pour que ce type de quartier sorte de cette situation avec des politiques sur la durée.
Guillaume Bigot, comment est-ce qu'on explique ce déferlement de violence? Comment est-ce que vous l'expliquez en l'occurrence? Là, il s'agissait de trois policiers qui ont tenté d'arrêter un homme qui, a priori, s'était rendu coupable de vol. Et c'est une foule entière qui s'est ruée sur ces trois policiers pour vraiment s'acharner sur eux à coups de barre de fer. Est-ce que d'abord, il faut chercher à expliquer cela pour tenter de comprendre, ou est-ce que, selon vous, il ne faut même pas chercher à comprendre le pourquoi du comment ?
Ah ben, comprendre, c'est ni justifier, et c'est souvent comprendre, c'est le préalable pour agir de manière efficace. Je vais essayer de répondre à votre question sur qu'est-ce qui est en train de se jouer finalement dans ces scènes qui sont très étonnantes parce que ça existe, vous voulez, la criminalité existe partout, les gens qui se rebiffent contre les forces de l'ordre, ça existe partout. On a le modèle nord-américain qui est avec cette culture de l'ultra-violence, l'ambiance, vous voyez, Scarface qui a été importé avec à coup de gangsta rap, à coup de sous-culture américaine, est importé dans le ghetto français pour créer un ghetto à l'image du ghetto américain. Donc tout ça, c'est connu. Mais là, c'est vraiment très caractéristique, c'est-à-dire que ça se déroule en pleine journée. Ça se déroule, si vous voulez, à l'heure en centre-ville. Et ça se déroule, si vous voulez, c'est la population qui spontanément prend parti. Bah, donc c'est assez simple, en fait. On est paralysé par un discours de culpabilisation permanente consistant à dire « attention, pas d'amalgame, attention ». On mêle cet enjeu qui est des gens extrêmement violents s'attaquent à des policiers, non pas comme une bande rivale, mais s'attaquent à des policiers comme une armée d'occupation. Et cette population se considère comme hors France. Et donc, quand elle voit des représentants de l'État français, elle a la haine, pour reprendre le célèbre film, le titre du film de Kassovitz. Et donc, cette haine, elle déferle. Donc, c'est une haine raciale, c'est une haine ethnique, c'est une haine religieuse, etc. Alors, évidemment, on va tout de suite se récrier, et probablement mon disputeur de ce soir va se récrier en disant oh, attention, pas d'amalgame, mais précisément.
Mais quelle est l'amalgame racial et ethnique?
Ah ben c'est très simple, parce que en fait,
que les policiers eux-mêmes ne sont pas...
Je vais vous expliquer.
Ils sont tout à fait multiethniques. Hein.
Mais précisément, ils pratiquent, les racailles pratiquent l'amalgame. C'est-à-dire que, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre origine et votre couleur de peau, à partir du moment où vous portez un uniforme, ou à partir du moment où vous êtes identifié comme membre des forces de l'ordre, à partir du moment où vous êtes policier, on va vous fracasser, vous frapper, essayer de vous tuer, on va avoir la haine contre vous, on va vous considérer comme un bounty, comme un collaborateur. Maintenant, cette réalité, elle explose au visage de tout le monde. On le sait, il y a eu ces images absolument stupéfiantes d'un livreur de pizza qui est, bon, je ne sais pas s'il était français ou pas, en tout cas, il était d'origine manifestement maghrébine, d'origine africaine, et il a été, mais littéralement, lynché par quelqu'un qui avait commandé cette pizza en lui disant, de toute façon, tu n'es qu'un noir, et moi, nous, les Arabes, les Noirs, on les bouche qu'avec un bâton, en fait. C'est-à-dire qu'on a pratiqué l'esclavage et vous n'êtes rien que des esclaves pour nous. Si vous voulez, un moment, il faut bien accepter les choses. Il y a un déferlement de racisme en France, mais il ne vient pas du tout de là où on croit qu'il vient. Alors évidemment, le danger, bien sûr...
Il vient peut-être de plusieurs endroits, si je peux me permettre.
Je ne comprends pas votre déferlement de racisme à partir du moment où vous êtes avec une police qui est multiethnique, vous le savez très bien, en particulier dans ces quartiers. Et donc, je ne vois pas où tellement où est le racisme. Je ne vois pas tellement le racisme où des personnes d'origine immigrée viendraient...
Il y a du racisme, il y a de la haine nationale.
Vous avez parlé de déferlement de racisme.
Postcolonial, il y a aussi une dimension religieuse qui est
intéressante. Je trouve que vous donnez une dimension idéologique à tout ça.
Expliquez-nous ce qui se passe dans ce cas. Pourquoi des membres des forces de l'ordre se font prendre à partie par une foule et littéralement lynchés en pleine rue? C'est-à-dire, est-ce que ça ne veut pas dire que ces gens dans ce quartier considèrent que le quartier leur appartient et que les forces de l'ordre...
Alors, Philippe Guibert, précisément, pourquoi est-ce que ça arrive de manière extrêmement fréquente, effectivement, dans certaines zones de notre territoire?
Et non, mais parce qu'il y a une lutte entre bandes rivales, où effectivement, ça, je suis d'accord avec vous, un certain nombre de personnes considèrent que le quartier doit être en dehors de l'autorité de l'État. Mais je mettrai
ça n'a aucun donc rapport avec ni l'immigration, ni un ressentiment colonial, ni une réislamisation.
Je ne vous ai pas dit que ça n'avait rien à voir avec l'immigration, parce que j'ai commencé par vous dire que c'était avec l'immigration clandestine que souvent il y avait ce type de problème. Donc, pas avec toute l'immigration, je me permets de préciser. Donc, je ne vous dis pas que ça n'a pas de rapport avec l'immigration, je vous dis, je ne vois pas trop où est le racisme. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de... Il n'y a jamais eu aussi peu de racisme en France.
Il y a une étude française.
Mais racisme anti-français. C'est vous avez des... Pardon, je peux développer mon propos.
Je vous en prie, on est là.
Donc, il y a des rivalités avec la police et une volonté de violence à l'encontre de la police. À partir du moment où vous avez des quartiers qui sont organisés soit autour de trafiquants de drogue, ça c'est un exemple, à partir du moment où la police est trop présente, où elle essaye d'empêcher le trafic, où elle dérange le trafic, il y a des affrontements, on les commente sur cette chaîne pratiquement toutes les semaines, on a des exemples de
ce type.
Ensuite, il y a des réseaux de trafiquants d'immigration clandestine, et donc il y a des pôles qui se constituent,
qui tourne évidemment à l'affrontement. Évidemment que c'est inacceptable, mais je ne vois pas le rapport avec l'idéologie décoloniale, vous voyez. Parce que ça, je pense que ça peut se passer dans les universités. Je ne pense pas que les personnes qui sont là soient très fortes en idéologie postcoloniale. Je pense qu'on est affaire à des affrontements entre la police et des réseaux de trafiquants plus ou moins organisés et qui tournent autour de l'autorité de l'État et de l'autorité dans le quartier. C'est comme si on se battait contre des petites mafias, en réalité. Et je vois beaucoup moins de dimensions idéologiques que vous dans
alors ce cas-là.
C'est pas moins grave, hein, ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire n'est pas moins grave, hein, parce que des petites mafias, ça peut détruire un État.
Les trafiquants de drogue, les criminels ou les mafieux, en général, ne veulent pas avoir affaire avec la police. Ils ne vont pas au contact, ils ne les agressent pas. Et là, il s'agit
de la police essaye.
Ou de criminels, il s'agit simplement de passants qui considèrent que la police française, quelle que soit son origine d'ailleurs, est une police d'occupation. Voilà, ça vous gêne, c'est comme ça.
C'est pas que ça me gêne, c'est que ça me paraît pas exact.
De constater, si vous ne nommez pas les choses, vous pouvez pas traiter les choses.
Oui, alors, il faut faire attention parce que quand on nomme mal, on ne s'attaque pas à la bonne cause.
Alors je veux qu'on parle maintenant, s'il vous plaît, de ce qui s'est passé il y a une semaine où trois jeunes hommes ont été tués à coups de couteau à Angers. On comptait aussi un mort à Amiens, un mort à Metz. Mardi, un député du Rassemblement national a interpellé Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale en affirmant que la France était devenue, je cite, un coupe-gorge. Écoutez, et on en parle juste après.
Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme. N'en déplaise à votre collègue, monsieur Éric Dupond-Moretti, la France est devenue un coupe-gorge. Monsieur le ministre, il faut regarder les chiffres terrifiants de votre bilan. Une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, plus 12% d'agressions physiques en 2021. C'est votre bilan.
Guillaume Bigot, la France est devenue un coupe-gorge. Cette expression, est-ce qu'elle vous semble déplacée ou est-ce qu'au contraire, elle vous semble refléter une réalité ?
Les deux, une réalité, parce qu'on a vu, enfin, il y a à peu près 120 attaques en moyenne au couteau par jour en France. C'est une statistique qui date de 2017. Peut-être que le tableau s'est encore aggravé depuis lors. Donc c'est une réalité, on ne peut pas dire que ce soit faux. Il y a des gens qui sont égorgés, des gens qui se prennent des coups de couteau tous les jours dans notre pays. Et on a vu... Ces horribles attaques au couteau débordées les unes sur les autres. On les mélange, d'ailleurs, on ne sait plus quel jour ça s'est passé, etc., etc. Donc c'est vrai. D'un autre côté, cette expression d'un coupe-gorge, l'idée qu'on ne peut plus sortir dans la rue sans se faire égorger, évidemment, c'est quelque chose d'assez excessif. C'est même très excessif. Ce n'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est ce que disait tout à l'heure M. Guibert, c'est-à-dire... Il a un peu balayé d'un revers de main en disant mais finalement ce laxisme il n'est pas institué, il n'est pas voulu, il n'est pas organisé, il n'est pas pensé, il n'est pas systématiquement mis en œuvre. Alors moi je pense qu'il y a une dimension juridique à ce problème, mais une dimension politique. La dimension politique, elle existe aussi, c'est un rapport de force, c'est-à-dire que le pouvoir en fait depuis longtemps craint la réédition des événements de 2005, c'est-à-dire l'explosion de toutes les banlieues,
les émeutes dans les
systématiquement.
Banlieues,
ouais. Donc il y a une volonté qui n'est pas dite, qui n'est pas avouée, si vous voulez, de prendre des gants, de faire attention, de ne pas créer l'émeute, etc. Parce qu'on a très très
de mettre un peu la poussière sous le tapis. Évidemment, c'est ce que vous dites.
Évidemment. Le deuxième point, c'est un problème juridique. Et ce problème juridique, et je remercie M. Guibert de l'avoir d'une certaine façon avoué,
au tribunal, cher Guillaume.
Ah, mais je ne suis pas un procureur, ne vous inquiétez pas.
Ça me rassure. Je ne serai pas condamné à la fin.
Ça va très bien se passer.
Très bien.
Je vous assure.
Non. Mais j'ai pas avoué quoi que ce soit. J'ai dit ce que je pensais.
Non, mais avouer, c'est-à-dire avouer, admettre au sens d'admettre un argument qui
je n'avais rien à cacher.
Non, mais vous avez reconnu que cet argument du bon plaisir individuel, de renforcer les droits de la défense, de mettre l'individu au centre de tout.
Oui, ça c'est vrai.
L'individu, voilà, c'est un des problèmes clés. Problème clé se reflète, par exemple, dans la politique pénale. La politique pénale, c'est-à-dire les circulaires pénales envoyées par M. Dupond-Moretti, c'est embastiller le moins de gens possible.
Mais ce que vous dites, Guillaume Bigot, le sentiment d'impunité galvanise quelque part les délinquants.
Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'à la tête de l'État, on vous explique qu'on va redoubler de fermeté, alors que on le dit, mais on fait exactement le contraire, puisque la réforme de la justice des mineurs, par exemple, c'était quoi ? Ça consistait à dire, il ne doit plus y avoir d'emprisonnement systématique. Quand vous refusez de construire les prisons depuis des années, alors on va dire oui, mais vous refusez de faire un bras de fer, par exemple, avec les maires qui n'en veulent pas sur leur terrain. Mais ça revient au même finalement. Vous vous couchez d'une façon ou d'une autre. Et évidemment que l'État central est des tas de leviers. Vous imaginez bien pour convaincre des collectivités locales, des petites villes, etc. À coup de subventions. Deuxième Actuellement, quand vous vous couchez face à l'Algérie, quand vous savez que la classe dirigeante algérienne vient se faire soigner en France, vient faire ses courses en France, qu'elle est propriétaire d'immeubles en France et que l'État français systématiquement se couche, moi je dis qu'il y a forcément un problème.
Là, on précise, vous parlez des laissez-passer pour renvoyer les ressortissants algériens qui sont en situation irrégulière en France.
Bien sûr, vous faites bien de décréter. En effet, c'est le problème central parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas expulser les gens puisqu'il n'y a pas de laissez-passer consulaire. Et juridiquement, c'est vrai. Sauf que derrière, il y a un.
Alors, Philippe Guibert vous répond.
Vous ne pouvez pas rompre les relations diplomatiques comme ça avec l'Algérie.
Qui a parlé de
À partir du moment où vous dites que vous vous couchez, c'est une négociation, en réalité.
Oui.
Donc, c'est le problème de savoir comment on mène cette négociation.
Et cette négociation. On ne la mène pas. On se couche.
Mais je suis pas sûr de ça. Parce que.
Toutes les valeurs.
Attendez, 2% je peux terminer mon propos. Enfin, le commencer.
Allez-y.
Tout le monde a l'air d'avoir une baguette magique pour résoudre le problème des renvois, soit des clandestins, soit des délinquants, dans les pays en général, mais en particulier du Maghreb. Mais croyez-vous, croyez-vous que depuis 20 ans, des gouvernements de gauche et de droite, ça leur a échappé, ce problème? Moi, j'ai travaillé à l'intérieur d'un gouvernement, c'est pas un problème qui est inconnu, que tout le monde ignorait et que tout le monde glisse sous le tapis. Le problème, c'est que ça soit avec le Maroc, avec l'Algérie et avec la Tunisie, peut-être un peu moins, mais avec l'Algérie et le Maroc, il y a des échanges économiques, il y a des échanges régaliens aussi, de lutte contre le terrorisme, il y a des échanges, le gaz algérien risque d'être utile dans les périodes qui viennent, donc c'est une négociation complexe.
Mais pardon, mais ce que vous décrivez là.
Il suffit pas de dire, on va taper du poing sur la table et on va arrêter de se coucher. C'est ridicule de dire ça, avis. En diplomatie, on n'est pas sur le fait de se coucher ou pas se coucher. Une négociation.
Je ne sais pas si c'est ridicule, mais avec 0,2% des expulsions vers l'Algérie exécutées, c'est peut-être la réalité est-elle ridicule.
D'accord, mais comment vous faites? Quelles sont vos solutions concrètes? Parce que moi, j'entends ça depuis. Je suis d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord sur le fait que des immigrés clandestins ou des immigrés qui ont effectué leur peine, qui sont délinquants, doivent être envoyés dans leur pays. Il n'y a pas de débat.
Pardon, Philippe Guibert, mais ce que vous décrivez là, effectivement, on a l'impression que vous nous dites on a tout essayé. Les gouvernements, depuis très longtemps, de gauche et de droite, ont essayé. Personne n'y est arrivé. Ça donne un peu un sentiment d'impuissance. Pardonnez-moi, c'est ce que je perçois.
Attends, si je peux juste. Je suis très frappé par le fait qu'on sort d'une campagne présidentielle où ce sujet a été abondamment commenté. Et où on n'a pas une solution concrète. Moi, j'aimerais connaître les solutions concrètes. C'est-à-dire que je ne me contente pas de politiques qui nous disent, de politiques ou de commentateurs, dont moi, qui nous disent, on va arrêter de se coucher.
Marine Le Pen a dit plus aucun visa pour les pays qui n'acceptent pas de reprendre
les visas. C'est très intéressant, puisque le dernier gouvernement d'Emmanuel Macron, sous son premier quinquennat, dans l'année 2021-22, a tenté cette politique d'Armanin, a tenté cette politique. Elle a totalement échoué. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas assez techniquement compétent pour savoir s'ils ont pris les bons visas, il faudra discuter. Mais cette politique a été tentée. Elle n'a rien donné. Ça s'est décidé en septembre-octobre dernier. Donc, arrêtons de raconter qu'on va réussir à faire plier le bras à des pouvoirs qui sont des pouvoirs autoritaires, pour ne pas dire plus. Que ça soit au Maroc, en Algérie, et donc qui n'ont un rapport à leur population, à l'insatisfaction de leur population, qui est tout à fait différent de la France.
Je voudrais qu'on revienne au sujet initial. Rapidement, s'il vous plaît.
C'est très important, mais c'est ça qui bloque, en fait. C'est ça qui fait que l'immigration fait la politique migratoire. C'est pas l'État français qui décide d'accueillir ou non les gens. Il y a des dispositifs, notamment européens, internationaux, des traités, plus les pays qui refusent de prendre leurs ressortissants, de sorte que si les gens sont là, ils restent. Voilà, c'est ça qui se passe. Et donc la question est clé. Alors on va pas s'arc-bouter sur l'Algérie, parce qu'avec d'autres pays que l'Algérie. Mais c'est un très bon exemple, et je vous reconnais franchement deux arguments qui sont tout à fait valables. Le premier, c'est effectivement les échanges en matière de renseignement. Vous avez tout à fait raison. Et le deuxième argument, et là, il est particulièrement de saison, c'est le gaz. Bien sûr. Maintenant, gouverner, c'est prévoir, bien sûr, mais c'est aussi choisir. Choisir ses priorités. Qu'est-ce qui est important? Deuxièmement, vous accordez-moi que la dimension idéologique, j'en ai parlé avec des gens du Quai d'Orsay qui étaient en poste à Alger, etc. Cette dimension idéologique, elle existe. Il y a une culpabilité française. Regardez la manière dont le président Macron a voulu célébrer les accords d'Évian. Regardez la manière dont il a commencé dire avant. Attendez, je vous ai écouté. Avant d'être président, avant d'être élu président de la République, il s'est rendu à Alger et il a accusé son pays du pire des crimes et du pire des maux. Crime contre l'humanité.
Sur ses déclarations
depuis longtemps. Il y a quelque chose d'idéologique. Ça vous gêne, mais c'est quand même une réalité.
Ça me gêne pas. Il y a rien qui me gêne, hein. Mais
je veux simplement préciser.
Moi, ça me gêne ce que dit M. Macron.
Je veux préciser aux téléspectateurs que si on parle de ces problèmes liés à l'expulsion,
c'est parce qu'ils sont liés à la flambée de la délinquance.
Et c'est parce que précisément à Lyon, dans ce quartier de la Guillotière, l'homme que les policiers ont tenté d'appréhender était, selon nos informations, un ressortissant algérien, connu 18 fois par la, inscrit 18 fois dans les fichiers de la justice et qui était interdit de territoire en France. Il n'a toujours pas été interpellé. Je veux simplement vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez le sentiment, quand on a parlé de tout ça, que le gouvernement a pris la mesure de ce que ressentent une partie de plus en plus grande de nos compatriotes, c'est-à-dire ce sentiment de vivre dans un pays qui n'est plus totalement sûr?
C'est-à-dire que, pour essayer d'être, sans faire de pirouette, pour essayer d'être le plus clair, le plus concret possible, cette dimension des idées paralysantes est très importante. À partir du moment où vous croyez à la ligne Maginot, bah vous allez perdre la guerre de 40. À partir du moment où vous croyez que l'Algérie sont des départements français, bah voilà, vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Donc si vous ne changez pas la manière de penser, si vous ne changez pas votre logiciel, vous restez à l'intérieur d'un logiciel dans lequel on veut effacer les frontières au nom de l'Europe, dans lequel effectivement on considère qu'on a une culpabilité coloniale et une sorte de dette, dans lequel vous considérez que le bon plaisir individuel est au centre de tout, et dans lequel vous ne voulez absolument pas changer, par exemple, dénoncer certains articles qui sont problématiques de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors vous ne pouvez pas régler les problèmes. C'est pas simplement que, évidemment, la critique est aisée, l'art est difficile, je vous l'accorde, la réalité, elle est complexe, elle est décevante, elle est résistante, bien sûr, mais ce ne sont pas les gens qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre, ça c'est certain.
Philippe Guibert.
Non, là-dessus, je serais beaucoup plus critique à l'égard du gouvernement, parce que pour répondre précisément à votre question, on est toujours en attente d'une stratégie et d'une politique de sécurité qui s'articule entre le pénal et puis l'action de la police. Et là-dessus, on a parfois des mots. Alors, il y a M. Darmanin qui fait le bad boy et qui dit des mots méchants. Et puis, on a M. Dupond-Moretti qui
good
dit...
Cop, bad cop, oui.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc, on a l'impression d'une répartition des rôles. On a l'impression d'une communication gouvernementale, mais on n'a pas l'impression d'une politique gouvernementale. Et donc là, pour revenir au point de départ, Madame Borne, qui a indiqué une volonté de fermeté, qui l'a même mentionné dans son discours de politique générale, là, on l'attend à l'œuvre, et on aimerait bien que Monsieur Darmanin et Monsieur Dupond-Moretti nous présentent une politique qui soit à la hauteur des enjeux, parce qu'il est tout à fait vrai qu'il y a une augmentation de la violence, qu'il y a une augmentation de la délinquance et de la criminalité. D'ailleurs, les gens au ministère de l'Intérieur sont les mieux placés pour, en général, pour le savoir. Donc, on attend d'eux qu'ils articulent une politique publique sur la durée.
Et vous avez l'impression que c'est en bonne voie?
Bah pour l'instant, je ne vois rien à part le discours de politique générale de Madame Borne où la question a été bien mentionnée, y compris celle des multirécidivistes qui représentent 40 ou 50% des cas de délinquance. Elle a commencé de nommer des choses. Maintenant, il faut la voir aux actes. Et alors, pour aller encore plus loin dans la critique du gouvernement, Monsieur Dupond-Moretti, mis en examen, garde des Sceaux, je trouve que déjà c'est un problème de crédibilité vis-à-vis de son propre corps de magistrats, avec lesquels il est dans un conflit qui a sa source dans ses activités précédentes d'avocat. Et donc je ne sais pas si c'est la personne la mieux placée pour mettre en place...
En tout cas, il a été conforté à son poste.
Oui, mais je ne sais pas si c'est la meilleure personne pour porter cette politique pénale articulée avec une politique...
Allez, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Ça se dispute. On va parler du gaz, de l'électricité qui risque peut-être de manquer l'hiver prochain et les prix qui pourraient une nouvelle fois, hélas, s'envoler. À tout de suite. Bientôt 20h30, nous sommes toujours en direct sur CNews. Dans un instant, la suite de Ça se dispute juste après l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
La suppression de la redevance télé adoptée en première lecture. Les députés ont voté ce matin à l'Assemblée nationale, 157 pour et 57 contre. Une mesure défendue par Emmanuel Macron dans l'objectif de soutenir le pouvoir d'achat des Français. En Ukraine, plusieurs blessés après les dernières frappes russes visant le port d'Odessa. Les infrastructures portuaires sont endommagées. Des bombardements au lendemain de la signature à Istanbul par Kiev et Moscou d'un accord devant permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre. L'Ukraine accuse Vladimir Poutine d'avoir, je cite, « craché au visage de l'ONU et de la Turquie ». Et au Tour de France, Wout Van Aert remporte la 20e et avant-dernière étape. Un nouveau record à Rocamadour avec cette 3e victoire d'étape pour le Belge de 27 ans. Un succès au terme d'un contre-la-montre qui a failli coûter cher à son coéquipier Jonas Vingegaard, le Danois qui s'est assuré son maillot jaune à la veille de l'arrivée à Paris.
On en a évidemment beaucoup parlé sur CNews, vous le savez, les députés ont adopté vendredi matin à l'aube le projet de loi du gouvernement concernant le pouvoir d'achat, un projet de loi qui comprend de nombreuses dispositions, un chèque carburant, un chèque alimentaire également pour les foyers les plus en difficulté. On a parlé de la revalorisation des pensions de retraite, de la hausse du point d'indice des fonctionnaires, on ne va pas tout récapituler ici. Ma question est la suivante, je commence par vous Guillaume Bigot, est-ce que le texte adopté vous paraît se répondre de manière... forte, allais-je dire, à la situation que vivent les Français?
Ah, c'est une question assez redoutable, parce que je commencerai par vous dire que le gouvernement a été plutôt habile et que ça avait quand même très mal commencé. Souvenez-vous, l'article 1, 10 heures de débat, bon, et la décantation parlementaire s'est plutôt bien déroulée finalement, et on a abouti à quelque chose qui est somme toute peut-être un peu plus cher si on parle d'aggravation de la dette, mais moins 30 centimes, c'est plus clair en tout cas que cette espèce d'invraisemblable usine à gaz qui avait été proposée par le gouvernement. Est-ce que c'est à la hauteur des attentes? C'est ça votre question. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites, elles sont de toute façon à prendre. Moi, ce qui me gêne le plus, je vais vous dire, c'est que la mesure phare lorsqu'on est frappé par une inflation exogène, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va élever des prix dans votre économie et donc diminuer votre pouvoir d'achat sans que ça passe par les salaires, parce qu'il y a une inflation qui passe par les salaires, là c'est pas le cas. C'est l'indexation en fait, c'est ça la réponse. La bombe atomique pour préserver le pouvoir d'achat anti-inflation, elle est dans l'indexation. Or il y a indexation, mais c'est l'indexation des retraites et des minima sociaux. Pas l'indexation des salaires. Et là, c'est vrai que c'est quand même assez invraisemblable. C'est un peu du clientélisme politique, parce qu'on sait bien qui vote pour M. Macron, qui a voté pour M. Macron et pour Renaissance. Ce sont des gens plutôt âgés qui ont des retraites. Il y avait des promesses qui ont été faites. C'est jamais mauvais de tenir ces promesses. Mais en attendant, le mécanisme d'indexation, qui est un mécanisme très fort, ça veut dire que vous compensez la hausse des prix de l'énergie par une augmentation à due proportion. Voilà, ça aurait dû probablement être fait pour les salaires.
Alors Philippe Guibert, c'est vrai que c'est ce que dénonce en partie l'opposition, qui appelle ça la politique du chèque, et c'est vrai qu'il n'y a rien là pour l'augmentation des salaires, en tout cas dans le privé. Mais est-ce que c'était le rôle du gouvernement d'aller sur ce terrain-là?
C'est toute la complexité de la question, parce que Guillaume a raison de dire que l'indexation serait une mesure forte, mais évidemment...
4% pour les pensions de retraite, effectivement.
Qui alimenterait l'inflation, parce que la spirale prix et salaire, on l'a connue il y a 30 ans, et on a réussi à en sortir. Mais là où je vous rejoins, c'est que la question des salaires est totalement posée. Toutes les oppositions avaient aussi fait des propositions sur la revalorisation des retraites et des petites retraites, l'indexation, parce que tout le monde courtise l'électorat des retraités.
Ce qui n'est pas mauvais en tant que tel.
Ce qui n'est pas mauvais en tant que tel. Là où je trouve que il y a plein de dispositifs dans ce projet de loi, qui sera bientôt une loi, dans le privé, sous des formes d'intéressement, d'heures supplémentaires, etc., reste que je trouve que le gouvernement, pour l'instant, en reste à une sorte d'incitation, demandant aux entreprises de faire un effort pour les salaires. Et là, je garde un petit côté social-démocrate, c'est-à-dire que je trouve quand même qu'il avait du bon, cette méthode qui consistait à dire aux syndicats et aux patronats, réunissez-vous par branche, par secteur, pour négocier des augmentations de salaire, parce qu'on est dans une période où on ne pourra pas demander tout le temps à l'État, c'est-à-dire à nous, parce que c'est nous qui payons les impôts, c'est nous et les entreprises, on ne pourra pas tout le temps demander à l'impôt de financer des compensations par rapport à l'inflation. Et qu'à un moment donné, il faut que tout le monde fasse un effort. L'État, oui, qu'il fasse des dispositifs, mais aussi les entreprises. Et donc, je pense qu'on risque de toucher à la limite de cette politique-là, qui en fait c'est un compromis avec les Républicains. Le gouvernement, politiquement, a été assez habile et les Républicains ont trouvé un accord, ce qui n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. On est dans une République qui est parlementaire, qui a des compromis, c'est très bien. Mais je pense que cette politique-là a une limite, qu'elle ne pourra pas durer éternellement et que pour 2023, il faudra se poser d'autres questions. Alors, si l'inflation continue, évidemment, dans les mêmes conditions.
Alors, vous l'avez sans doute remarqué également, depuis le début de cette nouvelle législature, l'Assemblée nationale est plongée dans un chahut permanent. Les débats sont constamment perturbés par des cris et parfois même des insultes. Le spectacle affiché, vous allez le voir, n'est pas très flatteur pour la représentation nationale. Inès Alicane.
Alors, silence ! Alors ! Oh, ce cri du cœur !
Les nerfs des élus à vif à l'Assemblée nationale. Face aux protestations de la gauche, c'est le député Rassemblement national de la Somme qui a offert une prise de parole assez surprenante, provoquant l'hilarité des membres de son parti.
Silence pour la France !
Des réactions surprenantes au sein de l'Assemblée, des insultes.
Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle est un rat.
Madame la ministre.
Mais aussi des attaques plus personnelles.
Je vous remercie de mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je suis en situation de divorce avec mon mari qui travaille chez Engie.
Coup de colère aussi chez les Républicains. C'est Éric Ciotti qui s'en est pris aux tenues relâchées de certains députés à l'Assemblée.
Je demande à la présidente de l'Assemblée nationale l'obligation du port de la cravate au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon pour empêcher que certains députés, notamment de la France insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées.
Si certains prennent des libertés vestimentaires, d'autres, c'est avec le règlement, comme la première ministre Elisabeth Borne, aperçue en train de fumer une cigarette électronique sous son masque en plein hémicycle.
Bon, Guillaume Bigot, qui est responsable de cette pagaille ? Y a-t-il un responsable ?
Mais je ne suis pas d'accord avec ce diagnostic. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de la pagaille. D'abord, c'est vieux comme le parlementarisme, et même chez nous. Enfin, la cruauté, là, c'est vrai que cette séquence est extrêmement cruelle. On est très, très gêné pour Madame Pannier-Runacher. Elle a passé un...
Qui parle de son divorce, oui.
Exactement. Mais en fait, souvenons-nous, par exemple, d'un Roger Salengro, c'était un ministre... avant-guerre, qu'on avait poussé, acculé au suicide parce qu'on lui avait dit que c'était un planqué, etc. Enfin, qu'elle ait volé ses médailles. Enfin, le type s'était suicidé.
Alors,
ça a toujours existé.
Il y a toujours eu des coups d'éclat à l'Assemblée nationale. Mais là, tout le monde s'accorde à dire que le chahut est permanent et que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau.
On va débattre, mais je pense que, par exemple, souvenez-vous du député, de la députée Masson. Il y avait eu des bruits de poules, on avait caqueté à l'Assemblée, et c'était la dernière législature. Cécile Duflot, ça remonte à quelques mandatures. Cécile Duflot, sa robe à fleurs, on l'avait sifflé, etc. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, il faut bien pas être naïf. Il y a des éléments de langage gouvernementaux visant à discréditer cette Assemblée parce qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Et donc, il faut faire de ces députés qui ne sont plus à la botte, qui ne sont plus des Playmobil, des mauvais élèves, voilà. Je trouve que l'Assemblée reprend un peu de vie. Il y a un côté un peu cathartique. Il vaut mieux qu'il y ait de la virulence dans les propos de l'Assemblée plutôt que dans la rue.
Bon, alors Guillaume Bigot finalement trouve des bons côtés à cette pagaille. Vous êtes d'accord ou pas ?
Je suis en partie en accord. La politique, c'est un spectacle, c'est un théâtre. Le problème est que le spectacle et le théâtre ou la pièce de théâtre doit être de bonne qualité.
Ça, c'est vrai.
Mais vous êtes sûr que c'est ce qu'attendent les Français, que la politique soit un spectacle, de voir les images qu'on a
des... C'est toujours un spectacle, c'est toujours une représentation. On parle de représentation politique, il faut le prendre au sens aussi de théâtre politique. Encore une fois, je répète, il faut que le théâtre soit de bonne qualité, il faut qu'il y ait de la tenue,
qui n'est peut-être pas le cas en ce moment,
de la tenue vestimentaire, mais aussi de la tenue dans les discours. Et là, il y a à l'évidence des ajustements à faire chez les uns et chez les autres. Je pense que l'ANUPS doit commencer à prendre conscience qu'ils ne peuvent pas se caricaturer de cette façon et qu'au bout d'un moment, les électeurs vont pouvoir leur tenir rigueur de cette négligence et de cette désinvolture. Donc je pense qu'il y a des réglages, mais la République française est aussi une république parlementaire, elle est mi-présidentielle, mi-parlementaire, et donc on a besoin d'un parlement qui vive, là je vous rejoins complètement Guillaume, et on a besoin d'un parlement qui conteste le gouvernement, et que la période qu'on a connue dans les 5 années précédentes, où c'était juste une chambre d'enregistrement, où après le conseil de défense où a été décidée la politique sanitaire, on convoquait le parlement pour lui faire voter en urgence, ce qui avait déjà été annoncé en français, c'était pas très digne non plus.
Donc ce que vous nous dites, c'est que ce qu'on a vécu les 5 dernières années, c'est ça qui était anormal. normal. Est-ce qu'on voit là, finalement, on renoue avec le véritable débat démocratique.
Des ajustements à avoir sur la tenue des discours et la tenue des propos.
Je suis assez d'accord. Malheureusement, il faut peut-être forcer un peu le trait pour l'intérêt du débat.
Dites simplement ce que vous pensez.
Oui, non, blague à part. Je suis plutôt d'accord. Moi, il me semble qu'il y a quand même un problème qui est lié à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit quand même que l'Assemblée nationale, là, devient un peu la prothèse de Twitter, le prolongement de Twitter et du buzz par d'autres moyens, et l'excès du buzz par d'autres moyens. Donc ça, c'est un problème. Et donc, chaque député a cœur maintenant de faire son petit sketch, son petit numéro d'une minute, deux minutes pour que ça fasse le buzz sur les réseaux. Deuxième point, moi, je pense qu'il y a la démagogie, dans la caricature, il y a toujours quelque chose de vrai. Donc, dans des propos même démagogiques, ça peut dire quelque chose de la société et dire des vérités. Et c'est pas nécessairement... Alors, là, il y a le problème de la NUPES, mais par exemple, Mme Kéké, on a beaucoup critiqué Mme Kéké dans une démagogie totale.
C'est une députée de la France Insoumise.
Rachel Kéké, exactement, qui est une ancienne femme de ménage, qui a dit « Personne dans cette Assemblée a gagné 800 euros », etc. Bon, moi, je trouve que ça dit quelque chose de la société. C'est pas inintéressant de l'entendre. Et Jean-Philippe Tanguy a pris à partie de manière assez virulente les uns et les autres.
Député du Rassemblement National.
Bon, ça réveille aussi. C'est quand même la polémique. Oublions pas qu'en grec, la polémique, c'est faire la guerre avec les mots. Et c'est la même racine et la même étymologie que la guerre.
Alors, je veux simplement qu'on dise un mot de ce que vous avez déjà évoqué. La tenue vestimentaire. Ah oui. Puisqu'Éric Ciotti proteste contre le relâchement vestimentaire. Il demande le retour dans le règlement de l'Assemblée nationale du port de la cravate pour les hommes. Ce débat-là, est-ce qu'il vous semble anecdotique ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'on parle là de valeur et de respect et que quelque part ça a son importance?
Écoutez, j'espère que ça ne sera pas la cravate sur les plateaux de télé, parce que vous êtes le seul, cher ami, à avoir une cravate ce soir.
Vous ferez un effort demain, puisque vous serez demain sur ce même plateau, donc
exact.
Je compte sur vous, cher Philippe.
Je mets une cravate demain soir, si vous souhaitez. Non, écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit la cravate qui soit en tant que telle le sujet, c'est un symbole. La tenue vestimentaire, je pense qu'il y a une certaine désinvolture qu'il faut mieux éviter quand on est député de la nation et qu'on représente plus que soi-même. On n'est plus un individu truc-muche, on devient député de la nation. Et donc on est au service de quelque chose qui nous dépasse, qui nous précède et qui nous succédera. Et donc dans ces cas-là, la tenue vestimentaire, d'avoir une tenue correcte et exigée, me paraît être un bon principe qui passe par la cravate ou pas pour les hommes. J'espère que sans cravate, avec Guillaume, nous sommes à peu près décents ce soir.
Mais nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Guillaume Bigot.
Écoutez, je pense qu'il y a, il y a l'adage populaire qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». En fait, on n'a jamais vraiment vu de moine sans habit. Il n'est pas faux que même l'habit, d'une certaine façon, conditionne. Quand vous êtes bien habillé, quand vous êtes dans un lieu qui en impose, etc., vous vous tenez d'une certaine façon. Donc c'est pas inintéressant. Et on parlait tout à l'heure de l'idéologie du bon plaisir individuel. C'est pas quelque chose de bourgeois contre quelque chose de populaire. D'ailleurs, le peuple est attaché. Les gens les plus modestes sont souvent attachés à la culture, à la noblesse de la culture, au fait de parler correctement le français et d'être aussi respectueux, élégant, de respecter les conventions. Ce sont plutôt les bourgeois qui ont enlevé le crucifix au-dessus du lit. Ce sont plutôt eux qui ont désacralisé les codes, les punks. Je fais ce que je veux, quand je veux, il n'y a pas de frontières, je jouis sans entrave, je fais de l'argent sans entrave. On est vraiment dans la mentalité 68.
Allez, autre sujet.
Ah, ben 68.
Autre sujet, on avance, il nous reste peu de temps malheureusement. Allons-nous manquer de gaz et d'électricité l'hiver prochain? C'est une probabilité importante qu'il ne faut pas négliger, reconnaît même le gouvernement, qui prépare d'ailleurs en ce moment un plan de sobriété énergétique. Toutes les explications avec Michel Chevalet.
Risque-t-on de coupure d'électricité cet hiver? La réponse, c'est la météo. Si on a un hiver doux, pas de problème, on arrivera à joindre en quelque sorte les deux bouts malgré le manque de disponibilité de notre parc nucléaire. Simplement, on va jouer ce qu'on appelle sur les contrats d'effacement qui sont prévus et signés avec des industriels. Les gros consommateurs d'électricité, on leur fait un contrat en baissant bien sûr le prix du kilowattheure en disant, eh bien voilà, le matin, durant le pic de consommation, dès que l'activité démarre, et surtout le chauffage électrique, eh bien vous allez diminuer votre production et votre consommation d'énergie. Et avec ces contrats d'effacement, eh bien on peut joindre les deux bouts. Par contre, au niveau du gaz, c'est complètement différent. D'une part, notre dépendance est tout de même faible, à peu près 10%. Donc en serrant un peu la ceinture, on y passera. Mais attention, n'oublions pas, il y a le gaz pour la chaudière à gaz du particulier, mais c'est le gaz un peu pour les transports, et notamment la production d'électricité avec des turbines à gaz. Mais les turbines à gaz ne fonctionnent qu'en pointe et non pas en continu. Mais surtout, il y a un domaine où on ne peut pas se passer de gaz, c'est le domaine de la chimie. La chimie a besoin de gaz, de méthane, de CH4, essentiellement dans deux domaines. Le premier des domaines, ce sont les fours, et notamment les fours pour les verrotiers. Ils ont besoin de fours à gaz. Et le deuxième, eh bien, c'est l'industrie chimique. Sans gaz, pas d'engrais.
Philippe Guibert, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement nous prépare bien à ce risque de pénurie ?
Je pense déjà que ce risque de pénurie est tout à fait réel. C'est-à-dire qu'il ne faut, pas avoir de doute sur le fait que Vladimir Poutine, à un moment ou à un autre,
utilisera... Il est même probable, dit le gouvernement.
Oui, c'est presque au-delà de probable. Donc il faut s'y préparer. Je pense que le gouvernement se dit qu'il ne faut pas ajouter des contraintes à des contraintes et laisse passer l'été. Mais je pense qu'à partir de la rentrée, la question de la sobriété énergétique devrait être étudiée, travaillée au Parlement et au gouvernement de façon très sérieuse, parce que c'est une perspective qui nous pend au nez. Et la question de la sobriété énergétique, je trouvais qu'Olivier Véran avait commencé à faire des déclarations un peu rapide là-dessus, parce que c'est un sujet sérieux. On n'explique pas aux gens, juste après une canicule, qu'il ne faut pas trop mettre la clim. Je trouvais ça très maladroit. En revanche, il faudra qu'on réfléchisse collectivement à la façon dont nous dépensons moins d'énergie, moins de gaz en particulier, et moins de pétrole, dans les mois qui viennent. C'est un sujet très sérieux auquel on n'échappera pas.
Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, Guillaume Bigot, c'est que cette possible ou probable crise énergétique est de nature à avoir des conséquences sur toute l'économie.
Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est une inflation importée qui peut déclencher une stagflation, c'est-à-dire à la fois une récession et une inflation avec des effets en cascade très graves. Donc je suis complètement d'accord avec le diagnostic posé par Philippe. C'est plus que probable, oui. C'est quelque chose. Il y a d'ailleurs une espèce de propédeutique et une préparation d'opinion publique avec des petites phrases, avec des petits mots, l'économie de guerre, le délestage, etc. Enfin, on y va pas à pas, mais on y va, grosso modo. Moi, ce qui me plaît pas du tout dans cette affaire, c'est cette petite musique. C'est-à-dire qu'on va revenir un peu avec l'affaire du masque. C'est-à-dire, finalement, qui était responsable de stocker les masques ? L'État. Qui ensuite a été culpabilisé avec les masques ? Qui ensuite s'est vu mentir, raconter n'importe quoi, etc. Les Français. Donc ça ne va pas. Je pense que là, si vous voulez, c'est un sujet un peu technique, mais c'est un sujet très très important, que c'est le sujet de l'énergie. On a, d'une certaine façon, quatre folies ou quatre erreurs en rafale. La folie nucléaire, c'est-à-dire laisser le nucléaire tomber, fermer Fessenheim, ne pas entretenir. Il y a 29 centrales
là,
sur 56.
On le relance.
Voilà. Enfin, un peu tard, après l'avoir laissé tomber, après avoir vendu Alstom, après avoir vendu Arabel pour le racheter plein pot, etc. Enfin, tout ça, c'est de la folie. Donc, on est en train de payer ça avant même la crise en Ukraine. Deuxième folie, la folie du renouvelable. Ça a coûté une blinde, cette affaire, les éoliennes, etc. On sait maintenant que les émissions de CO2, in fine, tout compris à la fin, c'est plus. Pour rentrer dans l'explication, parce que c'est pas une énergie, c'est une énergie intermittente, donc c'est pas une énergie en continu.
Oui, mais on aura
donc
besoin de renouvelables,
absolument
le
besoin.
Temps de faire monter en puissance les nucléaires.
Ça, je vous laisse. Là, je suis pas énergéticien, mais
les énergéticiens le disent.
Bah, on n'a pas les mêmes experts. Moi, je pense que le renouvelable coûte extrêmement cher et déclenche beaucoup de pollution. Ensuite, on a la folie européiste. Troisième folie. C'est-à-dire le fait d'avoir fait un réseau et un marché européen parce qu'on nous a obligés à la concurrence. La concurrence coûte plus cher. En fait, en France, on a EDF qui produit l'énergie et EDF qui distribue l'énergie. L'Europe nous a forcés à faire quoi ? De distinguer les deux. La production d'énergie de la distribution d'énergie. C'est un peu comme si vous aviez un boulanger qui est le seul à avoir un four à pain capable de produire du pain. Mais on veut absolument, pour des raisons idéologiques frénétiques, faire de la concurrence artificielle. Donc le boulanger qui a le four à pain, il est obligé de vendre à prix coûtant son pain à d'autres boulangers qui vont ensuite jouer à la concurrence avec lui. Non mais c'est n'importe quoi. Et enfin, dernière folie, c'est les sanctions. Ces sanctions ne sont que des auto-sanctions. Un, les sanctions internationales, ça ne marche nulle part dans aucun pays et on s'est évidemment tiré une balle dans le pied. Donc il ne faut pas que les gens qui ont créé ce problème viennent ensuite nous expliquer, nous culpabiliser,
oui,
si vous voulez.
Bon, alors je vais peut-être pas avoir le temps de répondre en détail à chacune des folies que vous avez mentionnées. Je commence par les sanctions, parce que c'est un sujet important.
C'est encore contre la Russie, hein.
Je pense que ces sanctions, effectivement, n'ont pas montré leur efficacité.
Sanctions qui vont être renforcées par l'Union européenne, on le précise, hein.
Oui, mais je trouve qu'on devrait avoir un vrai débat sur ce sujet, parce que l'efficacité des sanctions, autant moi je suis à fond pour l'aide militaire à l'Ukraine, autant la question
des sanctions économiques et financières, de leur calibrage. Dans quelle situation les sanctions ont-elles eu une efficacité ?
Mais il faut obéir aux maîtres américains.
Oui, mais enfin, on a justement, c'est le moment de montrer notre autonomie et française et européenne. D'autre part, mais une fois qu'on a critiqué ces sanctions, pardon, n'oublions pas que même si on n'avait pas de sanctions, Poutine jouerait quand même au chantage avec nous. Hein, on est dans une guerre, on aide militairement les Ukrainiens, et donc de toute façon, Poutine jouera là-dessus, fera du chantage au gaz et au pétrole, dans la mesure où nous, Français, nous n'en sommes pas les plus dépendants, mais l'Allemagne, l'Italie sont dans une situation de dépendance énorme. Deuxième point, la folie européenne, je suis d'accord sur la fixation du prix. En revanche, il faut avoir un mécanisme de solidarité européenne.
Pourquoi ?
Du point de vue de l'énergie. Bah parce qu'il y a des moments où vous allez aider les
Allemands. Attends, ont piraté notre nucléaire, on doit maintenant
Pardon, ils ont piraté notre nucléaire ?
Bah oui, ils ont refusé.
Non, ils n'ont pas piraté notre nucléaire. Attendez. Non, pardon, on ne peut pas dire ça quand même. Ils n'ont pas piraté notre nucléaire. Fessenheim a été arrêté pour des raisons de maintenance. C'était sans doute une erreur. Il fallait sans doute investir sur Fessenheim. Ça, je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire que c'est les Allemands qui nous ont imposé de fermer Fessenheim.
Philippe, non, mais je ne parle pas de Fessenheim, Philippe. Mais simplement, Berlin a fait pression sur Bruxelles pour que dans le plan de relance et de transition énergétique, on exclut le nucléaire. Je pense que vous le savez.
Mais désormais, le nucléaire est mentionné dans les énergies qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique.
Dans les énergies propres, oui.
Dans les énergies propres au niveau européen. Donc, il n'y a pas de volonté européenne d'arrêter le nucléaire. Il y a eu une volonté allemande qui a été complètement idiote, qu'il paye très très cher aujourd'hui. Donc, il faut maintenir une solidarité européenne, c'était mon point. Parce qu'il y a des moments où certains pays auront besoin d'énergie, on va les aider et c'est bien qu'on soit solidaire. Puis il y a des moments où c'est l'inverse, où nous en France, quand nos centrales nucléaires sont en maintenance et qu'elles produisent moins, on a besoin d'énergie venue d'autres pays européens. Pardon, mais c'est un peu technique et un peu détaillé, mais c'est un point important.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ce débat extrêmement intéressant. Merci Guillaume Bigot, merci Philippe Guibert. Vous revenez demain à 20h.
Je reviens demain à
20h. Avec une cravate. Alors, vous n'êtes pas obligé.
Je reviens avec une cravate. En plus, je pars en vacances après. Donc Non, d'accord.
Alors, à demain 20h pour un nouveau numéro de Ça se dispute. Dans un instant, vous retrouvez Christine Kelly avec La belle histoire de France. Quant à moi, je vous retrouve à 22h pour de nouveaux débats en direct sur CNews. À tout à l'heure.